Amen. Merci. Merci au groupe de louanges. Vous savez qu'on a un héritage à l'église de réveil par rapport à la louange. Mardi, j'étais à une pastorale de l'Union des églises de réveil. C'était à Yverdon. Et c'était une pastorale un peu spéciale parce que les pasteurs aînés, retraités, étaient présents avec leurs épouses. Et toute la matinée, c'est eux qui ont pris la parole, hommes et femmes. Tous ont partagé sur quelque chose qui les a touchés ou sur une exhortation ou un partage sur ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient actifs dans le ministère, bien qu'ils le soient un peu toujours. Mais et Dominique était là avec Elsbeth, Alain était là avec Yvette et je les écoutais parler. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de l'église de la Chaux-de-Fonds. Beaucoup de pasteurs ont été impactés par la Chaux-de-Fonds. Ça faisait déjà quelque chose. Mais quand Alain et Dominique parlaient, j'ai pensé à notre héritage. Et si on pense à la louange, par exemple, il y a eu les Gédéons, il y a eu Dominique avec Jude 25, il y a eu plusieurs passages de personnes importantes et il y a eu un pasteur de 1955 à 1960. Vous vous souvenez les plus anciens? René Robert. Avez-vous déjà entendu parler de René Robert? C'était un Canadien qui est venu ici et pendant 5 ans, il a été pasteur à l'église de réveil de la Chaux-de-Fonds et il était reconnu pour sa voix particulière. Il avait une voix merveilleuse et c'était un grand musicien. Et on a un héritage. Et c'est tellement important d'être conscient de notre héritage. C'est pas juste le groupe de louanges qui doit diriger la louange et porter toute une assemblée en espérant que l'assemblée puisse louer, mais nous sommes tous responsables de notre héritage. C'est important que nous ne passions pas à côté de notre héritage, que nous nous levions dans notre héritage ou que nous soyons relevés dans notre héritage. La louange, c'est un aspect. Il y a d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre héritage en Dieu. Et nous allons ouvrir la parole dans le livre de Ruth. C'est la dernière fois, en tout cas pour cette année, c'est la dernière fois pour cette saison que nous allons ouvrir le livre de Ruth. Mais je vous encourage à le lire à la maison, c'est 4 chapitres, c'est pas long. Mais il y a tellement, tellement d'éléments que je peux pas vous en dire le 5%. Alors pour tous ceux qui ont suivi, je pense que c'est la majorité, vous vous souvenez qu'il y a 3 semaines, nous étions dans l'ère de battage. La moisson était terminée et Ruth, cette pauvre veuve étrangère, a terminé de glaner dans le champ de Boaz et de nuit, elle s'est glissée à ses pieds et elle lui a demandé, au verset 9 du chapitre 3, elle a dit « Je suis Ruth, ta servante ». Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat, car tu es rédempteur. Et depuis ce moment-là, Boaz s'est mis en marche directement pour pouvoir exercer son droit de rachat, pour lui venir en aide. Alors je vous invite à lire Ruth 4, les premiers versets. On va déjà lire les 4 premiers versets. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat, celui qui était rédempteur, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Dès que Ruth a demandé la protection de Boaz, étends ton aile sur ta servante, exerce la rédemption sur ta servante, Boaz, il se met en route, sans attendre. Illico presto, le lendemain, la demande a été faite de nuit, le lendemain matin, Boaz, il se rend à la porte de la ville. La porte de la ville, c'est l'endroit par où il faut passer pour entrer dans la ville. C'est un endroit de grand passage et c'est un lieu stratégique. C'est un lieu stratégique parce que c'est là qu'on règle toutes les affaires juridiques, sociales, familiales, etc. Et Boaz convoque 10 personnes parmi les anciens, c'est-à-dire les personnes qui pourront faire office de témoins officiels pour valider l'affaire. C'est un peu comme s'il convoquait des gens, tous les acteurs nécessaires, requis, devant un tribunal socio-juridique ou alors devant le notaire, selon la situation. Et ce proche parent est intéressé. Il y a un parent, est-ce qu'il était au courant que Naomi vendait sa terre ou pas? Mais là, en entendant qu'il y a un terrain à acquérir, il est intéressé et il veut racheter. Il faut se mettre un peu à sa place. Naomi, elle est veuve. Elle n'a plus d'enfants. Donc, en fait, elle n'a aucun héritier. Autant l'acheter, cette terre. Parce que si ce premier parent, il achète cette terre, il va pouvoir l'exploiter. Il va pouvoir augmenter son patrimoine. Et puis Naomi, quand elle va mourir, eh bien, cette terre reviendra à sa famille et à son clan. C'est plutôt intéressant. Mais, lisons la suite. Boaz, il veut racheter Ruth, il veut racheter Naomi, il veut racheter le clan d'Elimelech. Elimelech, le défunt mari de Naomi. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, l'étrangère. Femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier, le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat, le premier rédempteur, dit donc à Boaz, « Acquiers pour ton compte », et il ôta son soulier. Boaz est déterminé. Il est déterminé à devenir le rédempteur, le racheteur de Naomi et de Ruth. Alors c'est un fin stratège. D'abord, déjà il respecte la loi, il attend son tour, mais il présente la situation de manière positive pour que le premier acheteur puisse dire ce qu'il pense vraiment, ce qu'il a vraiment envie, libre à lui d'acquérir cette terre. Mais ensuite, Boaz lui présente les obligations liées à ce rachat. Parce que le fait de racheter un terrain, nous l'avons vu les dernières semaines, c'est étroitement lié, enfin ça fait partie du droit de rachat de la loi de Lévitique 25, entre autres, il en est aussi question dans le Deutéronome. Cette loi de rachat, en fait, elle a plusieurs obligations. Et Boaz est en train de lui dire, tu respectes la loi en rachetant une terre pour qu'elle demeure au sein de la famille et qu'elle ne soit pas dilapidée ailleurs. Mais à cette loi est étroitement liée la loi du Lévirat. C'est-à-dire que tu dois épouser la femme d'un homme défunt pour pouvoir lui assurer une descendance. Normalement, c'est un frère qui doit épouser la veuve de son frère pour assurer une descendance. Et là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, c'est le plus proche parent, mais on ne sait pas trop où on en est. Mais toujours est-il qu'il y a une obligation, parce que Ruth s'est attachée à Naomi. Naomi n'est pas toute seule, elle a une belle-fille. Alors Naomi, elle ne présente aucun danger, elle n'est plus en état de procréer. Mais Ruth, oui. Alors qu'est-ce que ça signifie pour le premier acheteur? Eh bien, ça change la donne. Parce que s'il rachète la terre, ça veut dire que s'il doit racheter aussi Ruth, donc ça veut dire qu'il va héberger Naomi, il va héberger Ruth, ça fait déjà deux bouches à nourrir. Et en plus de ça, Ruth, il faut lui faire un enfant. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont se succéder. Ce sera d'autres bouches à nourrir. Pour acheter cette terre, peut-être qu'il faut puiser dans son propre héritage pour pouvoir acquérir le terrain. Et quand l'enfant qu'il aura engendré à Ruth va grandir, cette terre, elle lui reviendra. Donc en fait, pour le premier acheteur, mais il n'y a aucun intérêt. Il n'y a que des coûts et des sacrifices. C'est tout. Ah ben, si c'est comme ça, je ne veux pas détruire mon héritage. Je ne peux pas. Je jette l'éponge. En clair, exercer son droit de rachat n'a aucun intérêt personnel. Ce n'est qu'un sacrifice, par bonté, par amour. C'est vrai qu'on pourrait jeter la pierre à ce premier rédempteur. Mais en fait, déjà dans tout le livre de Ruth, il n'y a aucun reproche. C'est un livre vraiment incroyable. Et on ne connaît pas sa situation. Peut-être qu'il n'était pas si riche que ça. Peut-être que ça l'aurait vraiment mis dans les problèmes. On n'en sait rien. Ce n'est pas là le problème. Le focus, là où il faut qu'on mette nos regards, c'est sur Boaz. C'est sur les intentions de Boaz. C'est sur son cœur. Le premier parent, il pèse ses intérêts. Boaz se préoccupe des intérêts de la famille de Naomi, d'Elimelech, de Ruth. Il ne calcule pas la dépense. C'est quoi l'intérêt de Boaz? C'est de relever le nom du défunt dans son héritage. Son intérêt, ce n'est pas d'acquérir le terrain. Quelque part, il s'en fiche de ce terrain. On a vu, début du chapitre 2, Boaz, il est puissant et riche. Il n'a pas forcément besoin de cette terre supplémentaire. Mais ce qu'il veut, c'est relever le nom du défunt dans son héritage. L'héritage. L'héritage dans l'Ancien Testament, il est non seulement rattaché à la descendance, mais il est rattaché à la terre, au pays. Souvenez-vous, Abraham. Abraham, il a reçu la promesse d'une descendance, mais aussi d'un pays promis, la terre de Canaan. Et souvenez-vous, à la sortie d'Égypte, Dieu a délivré le peuple de l'esclavage de l'Égypte, mais il l'a aussi conduit pour prendre possession du pays promis. La terre entière appartient à Dieu. Mais Canaan, le pays promis, il était considéré d'une manière toute particulière comme le patrimoine de Dieu. Et alors, Israël a obtenu Canaan en héritage. C'est son héritage de la part de Dieu. D'où l'importance que les terres, que les terrains, restent dans le cadre familial. Parce que si tu vends une terre à un étranger, eh bien ça va commencer à morceler ce pays, cet héritage. Il ne faut pas dilapider l'héritage. Il faut qu'il reste dans le pays, qu'il reste dans la nation, qu'il reste dans la famille. Toutes ces terres, mises l'une à côté de l'autre, ça crée le pays, le pays dans le sens du terrain qui est attribué de l'héritage d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est Jésus qui est l'héritier par excellence. On peut le lire par exemple dans Hébreux, le premier chapitre, Hébreux 1, le verset 2. Alors, je vous lis depuis le verset 1. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Jésus est héritier de toutes choses. Mais il y a quelque chose de tellement, tellement plus puissant pour nous. Parce que ça nous paraît très loin que Jésus soit héritier de toutes choses. Mais si nous allons dans l'épître aux Romains, Romains 8, les versets 17 et 17, on va dire. L'esprit 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc Jésus, il est héritier sur toutes choses et nous, nous sommes héritiers de toutes choses avec lui. C'est quoi toutes choses? Avez-vous conscience de votre héritage? Eh bien, un héritage que nous avons pour commencer, pour vivre ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Mais nous en avons une petite portion. Nous avons le gage du Saint-Esprit, les arts du Saint-Esprit. Nous n'avons pas toute la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons des choses glorieuses qui nous attendent pour plus tard. C'est important de vivre sur la terre dans notre héritage, mais aussi avec la conscience que nous avons un héritage qui nous attend. Quand on vit quelque chose de difficile, plutôt que de se focaliser sur tout ce qui est tellement dur, ayons cette espérance qu'il y a quelque chose de meilleur qui est à venir. L'espérance chrétienne, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur. Lorsque nous serons avec lui, nous avons hérité des choses dans le ciel, mais tout ce que nous allons vivre, on n'a pas idée, tellement ce sera glorieux, tellement nous vivrons dans la liberté des enfants de Dieu. Nous avons un héritage qui est incroyable. Mais nous avons déjà le Saint-Esprit. Je vous fais un peu valser dans la parole. Éphésiens 1, la fin du verset 13 et le 14. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, une avance de notre héritage pour la rédemption. Rédempteur, Goël, Rachat, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons à vivre, à marcher par le Saint-Esprit. Nous avons le gage du Saint-Esprit. C'est une part de notre héritage pour vivre notre quotidien, notre instant présent. Mais nous avons aussi hérité du royaume de Dieu. Nous ne sommes plus du monde, nous vivons dans le monde, dans l'atmosphère du monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous avons été sortis du monde et nous avons hérité le royaume de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Le pays promis, mes amis. Le pays promis, on en a un avant-goût. Nous avons bénéficié du salut. Nous avons bénéficié de la gloire, de l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous... Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Savez-vous que lorsque vous allez mourir physiquement, vous allez continuer d'exister et qu'au retour du Seigneur, vos corps seront ressuscités. Saviez-vous que votre héritage, c'est l'incorruptibilité, que Jésus est le premier homme? Bien sûr, il était pleinement Dieu et pleinement homme, mais il est le premier dans notre nature à être ressuscité et à vivre et à être déjà dans la gloire. Ça fait partie de notre héritage. Notre héritage, c'est la bénédiction. Se pourrait-il que tu te sois fait voler ton héritage? Se pourrait-il que tu n'es pas sous la bénédiction, mais que dans un aspect de ta vie, c'est comme Ritz l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie où tu serais sous la malédiction? Est-ce que tu t'es fait voler une part de ta bénédiction? Est-ce que tu aurais dilapidé ton héritage? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à récupérer? Jésus est le Rédempteur, il est celui qui rachète, celui qui nous relève dans notre héritage. Rien n'est perdu. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut répondre. C'est aujourd'hui qu'il faut lui dire, mais étends ton aile sur moi, rachète-moi. Rachète cette partie qui n'est pas sous la bénédiction. Revenons à Ruth. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquère pour ton compte !» Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Mahlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Mahlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, dans son héritage, soit semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets qui fut enfantée à Juda par Tamar. » La transaction est faite et attestée. Boaz est officiellement le rédempteur de Ruth, Naomi et de leur défunt mari. Avez-vous remarqué le peuple qui atteste? Ils font référence au nom, le nom de Rachel et de Léa, mais ce mot « nom » il ressort plusieurs fois. Et ce qui m'a tellement frappé dans ce chapitre 4 de Ruth, c'est déjà le terme « rachat », « rédempteur », « goël », c'est toujours le même terme, hein, c'est « goël » qui est décliné de plusieurs manières, il revient 14 fois, 2 fois 7, 2 fois un chiffre parfait. C'est dire si la thématique de la rédemption, elle est massive dans ce chapitre. L'héritage, il revient 3 fois. C'est aussi un chiffre parfait. Il y a quelque chose là, et c'est au milieu du... Géographiquement, là, dans mon texte, c'est au milieu. L'héritage, il y a vraiment quelque chose à saisir à ce niveau-là. Et le nom, il revient 7 fois. Chiffre parfait. Est-ce qu'il n'y a pas un message? Le nom, qu'est-ce que ça signifie le nom? Quand on donnait un nom à l'époque de l'Ancien Testament, on pouvait donner un nom parce qu'il sonnait bien, parce que ça faisait du bien aux oreilles, ce qu'on fait encore aujourd'hui. On pouvait donner un nom à cause de sa signification, à cause de la signification qui était en lien avec les circonstances au moment où ce bébé est né, ou comment ce bébé est né, ou des circonstances géopolitiques. Mais un nom, il peut aussi retracer le caractère d'une personne, sa personnalité ou encore sa destinée. Quand Jésus nous a dit comment prier, qu'il nous a donné une espèce de trame de prière, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Ce n'est pas son prénom, ce n'est pas D-I-E-U qui doit être sanctifié. Ce n'est pas une étiquette. Mais... Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu qui pourvoit, le Dieu tout suffisant. El Jireh, le Dieu qui voit et qui pourvoit. Adonai Tsebaot, l'Éternel des armées célestes, c'est-à-dire de tout le monde spirituel. Adonai Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Et à toute l'œuvre de justice que Jésus a accomplie à la croix. Quand on sanctifie le nom de Dieu, on sanctifie son œuvre, son caractère, sa personnalité, son amour, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fera encore. Vous comprenez, le nom, c'est quelque chose d'important. Les noms de Rachel et de Léa sont mentionnés, c'est pas de prénom. Quand on entend Rachel et Léa, on pense bien aux épouses de Jacob, on se souvient un peu de l'histoire. Mais là, il précise, c'est celles qui ont bâti Israël, parce que c'est par elles qu'il y a eu les 12 patriarches, qui se sont multipliés et qui, par eux, ont fait le peuple d'Israël. Et c'est comme si le peuple, il associe Naomi à Rachel et Ruth à Léa. C'est comme si ces deux femmes ensemble, elles vont comme engendrer un nouvel Israël. Non pas un nouvel Israël qui est deux Israël, il n'y en a qu'un. Mais comme si elles vont renouveler quelque chose pour Israël, pour le peuple d'Israël. Il y a quelque chose qui mijote là. Et ils insistent, et dans le texte, Boaz insiste aussi pour que le nom du défunt ne soit pas retranché, que sa personne ne soit pas retranchée. Le nom, c'est quelque chose d'important. Dieu veut relever ton nom dans ton héritage. Ça veut dire que Dieu veut relever toute ta personne, ta destinée. Il veut te relever dans tout ce qui t'a été volé par les circonstances de la vie ou par des mauvais choix. Il peut y avoir tellement, tellement de circonstances différentes. Ou simplement parce que tu t'es même pas rendu compte que tu avais un héritage. Restaurer le nom, c'est restaurer toute la personne. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Mais nous, nous devons être conscients que nous avons un héritage. Nous devons appeler le Seigneur à venir nous relever, relever notre nom, notre personne, notre caractère, notre destinée. Et question destinée, eh bien, il y a eu quelque chose pour Ruth et Naomi. Nous pouvons lire la suite et la fin de ce livre de Ruth. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat ou qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérets. Pérets engendra Hetzron, Hetzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Je ne sais pas si vous avez remarqué le rôle prépondérant des femmes dans le livre de Ruth. Moi, je vous invite à relire ce livre. Je prêche pas pour ma paroisse, pas du tout, mais allez revoir le rôle des femmes dans le livre de Ruth. C'est vraiment étonnant. C'est elles, là c'est les femmes qui s'expriment. Et la première chose qu'elles disent, elles bénissent l'Éternel, l'Éternel qui n'a pas laissé manquer d'un rédempteur. De qui elles parlent? Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur et dont le nom sera célébré en Israël. De qui s'agit-il? De Boaz? Mais non. Cet enfant restaurera ton âme. Il sera le soutien de ta vieillesse. Ce rédempteur. En fait, Ruth a eu un enfant et ça veut dire que tout à coup la descendance est relevée. Et que toute la famille d'Elimelec retrouve son héritage. C'est cet enfant qui est le rédempteur, d'une certaine manière. Suivez-moi bien. Suivez le texte, plutôt. Ce sont les voisines qui donnent un nom à cet enfant. Et déjà, il n'y a pas marqué que c'est Ruth qui le prit sur son sein et qui fut sa garde. C'est sa belle-mère. Déjà, c'est comme Ruth, elle est quasiment effacée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce dernier chapitre, elle est complètement passive. Ce sont les voisines qui lui donnent un nom. C'est quand même étonnant. Ce n'est pas Ruth qui donne un nom à son fils. Ce n'est pas Naomi qui donne un nom à son beau petit-fils. Ce n'est pas Boaz, c'est les voisines. Et le prénom qu'elle donne, c'est Obed. Elle ne l'appelle pas Elimelec, alors qu'il faut le relever dans son héritage. Elle ne l'appelle pas Marlon, le défunt mari de Ruth. Elle ne l'appelle pas Boaz, du nom de son père. En fait, c'est comme si cet enfant, il appartient à tout le monde et à personne. Et Obed. Qu'est-ce que ça signifie? Obed veut dire serviteur. Serviteur, esclave, c'est le même mot. En hébreu. Est-ce que prophétiquement, ça ne fait pas penser au serviteur souffrant, le serviteur de l'Éternel? Je ne peux pas m'empêcher d'aller dans Ésaïe 42. Je crois que Le Seigneur insiste, moi ça me touche. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. Il s'agit de Jésus, mes amis. Voici mon serviteur que je soutiendrai, Ésaïe 42 à partir du verset 1. Mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ça fait partie de ce qu'on appelle le chant du serviteur, les chants du serviteur. Il y a plusieurs chants du serviteur dans le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 43, il en est question aussi. Lisons encore Ésaïe 49, le verset 6. Il dit... C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et que dire d'Ésaïe 53? Ça commence déjà à la fin du chapitre 52. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui d'un homme. Il est question de Jésus qui a été flagellé, qui s'est fait crucifier. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 600 ans avant Jésus, ce texte. Et 600 ans avant ce texte, les voisines donnent Obed comme prénom à l'enfant de Ruth et de Boaz. Ce rédempteur, c'est pas ce premier Obed. Ce premier Obed, c'est prophétiquement qu'il est le rédempteur. Obed, ça va être un maillon de la chaîne de la généalogie de Jésus. Ruth, parce qu'elle a été humble, parce qu'elle s'est donnée pour sa belle-mère, qu'elle est allée glaner, qu'elle s'est attachée au Dieu de Naomi, au peuple de Naomi, à la culture de Naomi, à la terre de Naomi. Elle s'est attachée au Dieu vivant. Elle est allée chercher la couverture des ailes du Dieu vivant. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Et par adoption, bien sûr, au travers de Joseph, elle a contribué. Elle fait partie de ceux qui ont précédé des descendants, le contraire. De Jésus, les ancêtres de Jésus, merci. Elle est un maillon de la chaîne. Imaginez sa destinée. Et dans la généalogie, au début du livre de Matthieu, lorsqu'il y a la généalogie de Jésus, c'est toujours les hommes, fils d'eux. Et pour Obed, il y a bien marqué Obed, fils de Boaz, de Ruth. Il y a cette précision. Dans la généalogie de Jésus, Ruth est mentionnée. Ruth, elle nous fait penser un peu à Marie. Que ce soit Ruth ou que ce soit Marie, elles se sont faites servantes du Seigneur. D'une certaine manière, elles ont porté le Seigneur. Mais après, elles se sont effacées. Elles ont laissé le nom du Seigneur être célébré en Israël et pas seulement, sur toute la terre entière, dans tout l'univers. C'est le nom du Seigneur, du serviteur souffrant qui est célébré. Alors ce matin, la question, quel est ton héritage? Est-ce que tu vas prendre le temps de réfléchir à cette question d'héritage? Ton héritage pour le temps présent, en tant qu'enfant de Dieu, es-tu relevé dans ton héritage? Comment vis-tu au quotidien? De quelles bénédictions est-ce que tu bénéficies? Quelles sont les bénédictions que tu dois encore récupérer? Demander au Seigneur qu'il vienne les relever. Est-ce que ton nom est connu dans les lieux célestes? Est-ce que ton nom, ta personne a été relevée par le Seigneur? Est-ce que ton nom est connu devant Dieu? Est-ce que ta destinée a été rachetée par le Seigneur? J'invite le groupe de louanges à me rejoindre et je crois qu'il y a une vraie question. J'ai donné le titre de cette prédication, « Sois restauré dans ton héritage ». Et la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un aspect de ta vie où tu as dilapidé ton héritage? Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie où tu as l'impression qu'on t'a volé ton héritage? Est-ce qu'il y a un aspect où tu es sous la malédiction au lieu d'être sous la bénédiction? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur vienne te rejoindre pour te racheter, pour relever ton nom, ta personne dans ton héritage? Eh bien, je crois que si c'est le cas, tu peux te lever comme un témoignage pour dire au Seigneur, moi j'ai besoin de toi dans ce domaine. Vous n'aurez pas besoin de le dire à haute voix. Mais si vous avez besoin d'être racheté, vous avez besoin que Jésus soit votre rédempteur dans une partie de votre vie, je vous invite à vous lever. Pour les personnes qui ne sont pas levées, je vous invite à prier pour les autres, pour ceux qui sont debout. Tu peux jouer, Marianne. Je vais prier, mais tu peux jouer, Marianne. Tu peux poser juste une. Seigneur Jésus, nous sommes tous devant toi. Nous sommes témoins les uns devant les autres que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur, que tu es notre Rédempteur. Seigneur, tu t'es offert à la croix en sacrifice, tu t'es fait ce serviteur souffrant pour nous relever dans notre héritage. Je te remets chaque personne qui est levée maintenant, chaque personne qui devant toi a quelque chose à récupérer de son héritage. Là où des personnes sont sous la malédiction, Jésus, je te demande de restituer, je te demande de placer ces personnes sous la bénédiction. Là où des personnes se sont fait voler leur santé, je te demande de la restituer. Là où des personnes se sont fait voler leur destinée, je te demande, Jésus, par la puissance de ton sang, par ta bonté, par ton amour, de restituer. Seigneur, tu n'as pas eu peur de puiser dans ton héritage, mais tu nous partages ton héritage. Et je te demande d'ouvrir l'intelligence de chacun de mes frères et sœurs debout pour qu'ils puissent recevoir cette compréhension, la révélation de ton héritage, de l'héritage que le Père nous a donné avec toi. Nous sommes héritiers avec toi et je te demande, Seigneur, que ça se manifeste dans les vies. Restaure les vies, Seigneur. Brise les malédictions, enlève les obstacles qui empêchent mes frères et sœurs d'avancer dans leur héritage. Je te demande de relever. Seigneur, fais une œuvre qui confond l'adversaire, brise les œuvres du malin, étends ta grâce, relève. Sois notre rédempteur à chacun, Seigneur. Je te demande que ton sang maintenant soit sur chaque personne, le sang qui purifie. Là où il y a des péchés, que ces péchés puissent être confessés. Là où il y a eu des blessures, que ces blessures puissent être guéries. Là où il y a des souvenirs qui ont besoin de guérison, je te demande ta paix, Seigneur, ton huile sainte, ton baume de Galade. Saint-Esprit, je te demande de te déposer sur chacun. Viens guérir, viens libérer, viens visiter et relève-nous dans ton héritage, Seigneur.